טוב, ברשות הרב, avec la permission du Rav Yoshua et de son épouse, et avec votre permission à vous, d'abord je les remercie de m'avoir invité aujourd'hui. J'ai une double activité en fait dans ma vie. Généralement le matin je suis dans mon atelier, je suis artiste peintre. Et l'après-midi, je m'occupe de tout ce qui est Kodesh, c'est-à-dire la sainteté, la Torah, l'étude, et le soir, j'enseigne. Donc là, j'ai inversé un petit peu le processus pour vous. Je suis venu spécialement pour vous le matin. C'est les heures, en fait, de mon travail, et j'ai inversé le sens aujourd'hui. Donc, j'espère que nous allons sortir enrichis de cette étude. Les sages d'Israël nous disent qu'il n'y a pas d'étude sans nouveauté. Un bet midrash bli chidush. Mais la notion de bet midrash ne veut pas dire un centre d'étude, mais un centre, une maison de l'exigence. Doresh. C'est-à-dire que si tu n'exiges pas, tu ne peux pas apprendre. Et donc nous sommes dans un lieu d'exigence. Donc soyez exigeants, parce qu'il s'agit là d'une vérité absolue et non pas d'une création humaine. C'est-à-dire que le judaïsme n'est pas une religion. On a toujours tendance à confondre et dire la religion juive, la religion chrétienne, la religion musulmane. Ce n'est pas une religion. Le judaïsme est une nation qui a été créé pour révéler des valeurs de l'infini dans ce monde. Et elle n'a pas été choisie, cette nation, après avoir été créée, mais elle a été choisie d'être créée de cette manière. C'est-à-dire que le peuple d'Israël est fabriqué d'une matière spéciale qui est capable d'entendre d'abord les voix, V-O-I-E-S, et les voix, V-O-I-X, de l'infini. Ce qui n'est pas quelque chose de logique, de facile à comprendre. C'est-à-dire que si nous n'avions pas cette matière divine, on n'a aucune chance d'entendre ce degré infini. Et donc le peuple d'Israël est en réalité un reflet, un miroir des valeurs de l'infini dans ce monde. C'est pas par hasard que dans le nom Israël, nous avons le seul degré dans ce monde qui soit dans la rectiligne, dans la droite. Vous savez que le monde naturel est circulaire. Il n'y a rien de rectiligne dans l'univers. Ça n'existe pas. Aucune planète, on ne peut pas tirer un trait droit, c'est connu en physique, c'est connu en mathématiques, il n'y a que des courbes. Même un rayon laser, à un moment donné, il devient courbe, avec la distance. Et donc, la droiture n'existe pas. Tout est circulaire, tout est rond. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit là d'une création de nature. Or, la nature dont la racine est naître, en hébreu se dit teva. Et le mot teva est en réalité la source d'une bague, taba'at. Taba'at, c'est la bague. Autrement dit, le monde dans lequel nous sommes est un grand cercle. Et tout est circulaire dans ce monde. Moralité, si on ne connaît pas la rectiligne de ce monde, on reste à tourner en rond. Et la seule rectiligne dans ce monde, c'est l'infini. L'infini, béni soit-il, c'est la droite qui pénètre dans ce cercle de l'univers. Ce sont des notions qui sont très profondes. Et la mémoire de cette droite dans ce monde, la droite en hébreu se dit Yachar, et Dieu se dit El. Et donc Yachar plus elle, ça devient Israël. Donc Israël, c'est en réalité la mémoire de la seule fonction de droite dans tout ce monde circulaire. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez poser des questions, ce n'est pas une conférence, je suis là pour vous. Et donc Israël a un rôle à jouer dans l'histoire. Il n'est pas là pour dominer les nations, il est là tout simplement pour représenter la droite dans un monde qui est complètement circulaire. Maintenant, il y a quelque chose qui est très important. Si on prend un cercle et qu'il n'y a pas de droite, eh bien ce cercle est plat, c'est comme un disque. On est d'accord. Mais lorsque ce cercle trouve la droite qui est le centre de ce cercle en réalité commence à prendre un mouvement. Et ce mouvement donne naissance à une spirale. C'est-à-dire que le cercle plus une droite, c'est une spirale. Et Israël est là pour donner au monde une évolution permanente, pour ne pas que le monde soit un disque plat, mais une vie qui a un sens, qui avance vers un but bien précis. Donc nous, les enfants d'Israël, nous avons le devoir d'abord d'étudier notre essence. Si on ne sait pas nous-mêmes qui nous sommes, on ne peut pas du tout faire notre travail, on ne peut pas remplir notre fonction. Donc la première des choses que j'enseigne à mes élèves, c'est d'abord l'identité de ce que représente ce peuple d'Israël. D'où est-ce qu'il est venu? Quelle est sa nature? Quelle est la matière avec laquelle il a été fabriqué? Quelles sont ses capacités? Et une fois que je sais tout ça, je peux mettre en fonction tous ces attributs que nous avons reçus. Mais si je ne sais pas qui je suis, je ne peux pas vivre selon mon identité. Et donc je peux encore moins enseigner aux nations du monde le sens de la vie que l'éternité a choisi de faire passer par le peuple d'Israël. Donc nous sommes un vecteur et vous êtes assez sensible apparemment pour avoir senti que nous sommes ce vecteur et que vous êtes là pour apprendre, pour recevoir. Et il y a un lien d'amour entre nous et vous. Il y a un lien de don, ce n'est pas un lien de domination, c'est un lien comme entre un homme et une femme. C'est-à-dire l'un donneur et l'autre récepteur et qui dévoile en réalité. Donc votre rôle à vous, c'est de dévoiler, d'être l'écran sur lequel nous, le peuple d'Israël, on doit projeter le film de l'infini. Quand je projette un film, s'il n'y a pas d'écran, je ne vois pas le film. Donc Israël, sans les nations du monde, n'a aucun sens. Et les nations du monde, sans Israël, n'ont aucun sens non plus. Donc il y a ici un mariage absolu, obligatoire. Et donc, beaucoup de gens se trompent en ayant l'impression qu'Israël n'a pas besoin des nations, ou bien que les nations n'ont pas besoin d'Israël. C'est faux. C'est le sens même de la vie, c'est ce couple-là. Donc il s'agit d'un grand couple qui, à la fin des temps, va même former un mariage. Mais ça, c'est encore autre chose. Alors aujourd'hui, je suis là pour vous expliquer, j'espère que je suis clair dans mes propos, j'essaye toujours de ne pas faire les erreurs que moi-même j'ai subies quand j'étais plus jeune, avec des maîtres qui n'étaient pas clairs dans leur enseignement. Donc je me suis donné la mission d'être le plus clair possible. Et si ce n'est pas clair, il faut me poser des questions. Et j'essaye toujours d'être le plus précis possible. L'un de mes maîtres, la plus grande Torah, le plus grand enseignement que j'ai eu de mon maître, le Rav Yehoshua Zuckerman, avec lequel j'étudie encore constamment, c'est la précision. Si on n'est pas précis dans ce qu'on dit, si on ne se réfère pas avec précision extrême aux valeurs de nos sages et aux paroles de nos sages, on ne peut pas étudier. Parce que les paroles ont choisi des mots, les sages ont choisi des mots bien précis pour définir telle et telle chose. Et si moi, en ayant l'impression que je comprends et donc je choisis un autre mot à côté, c'est déjà à côté. Il y a quelque chose de très très important là-dedans. Et donc, aujourd'hui, le sujet, c'est le Shabbat. Alors vous connaissez le Shabbat en tant que temps. Alors, c'est déjà une faute. Le Shabbat n'est pas un temps. Le Shabbat est un jour. Et il y a une grande différence dans le judaïsme entre les jours et les temps. En hébreu, ça s'appelle Yamim et Zmanim. C'est pas pareil. Quelle est la différence? Les Zmanim, le temps, c'est quelque chose que j'invite. En hébreu, les Hazmim. C'est-à-dire que moi, l'homme, je peux dominer le temps. Je peux lui donner une couleur. Je peux lui donner une valeur. Aujourd'hui, j'ai coloré mon dimanche matin en cours à des blés noirs. En voie de conversion. Ça veut dire déjà un degré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire tout simplement que j'ai coloré ma journée, je lui ai donné un sens. Je lui ai donné une nuance. Mais ça, c'est au niveau du temps. Donc moi, le peuple d'Israël a reçu comme cadeau, lors de sa formation dans ce monde, en tant que peuple, de pouvoir dominer le temps et sanctifier le temps. Quand est-ce qu'on a reçu cela? À la sortie d'Égypte. Au moment où nous sommes sortis d'Égypte, l'Éternel dit à Israël, c'est vous les maîtres du temps. En hébreu, Hachodesh Hazeh Lachem. Je vous ai donné la possibilité d'introduire quelque chose de nouveau dans l'univers qui n'existait pas jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que le peuple d'Israël a la capacité de donner, par exemple, de l'optimisme au temps. Jusqu'à la sortie d'Égypte, le temps était pessimiste. Le monde a été créé et il était en train de s'éteindre. La sortie d'Égypte, c'est le premier printemps de l'univers. Et aujourd'hui, on essaie d'imiter ce printemps. Il y a le printemps arabe, le printemps machin. Mais ils n'arrivent pas tellement bien parce que si ça c'est le printemps, qu'est-ce que ça va être l'hiver? Le printemps, c'est quelque chose qui donne une floraison, quelque chose qui va vers la vie. Ça, c'est les temps. Mais il y a les jours. Et les jours, l'homme n'a aucun degré de saisie sur le jour. Je ne peux pas attraper un jour. Un jour, ça me dépasse. C'est quelque chose qui est de l'ordre du divin. Et on appelle ça yamim, yom. Et l'essentiel de cette notion de yom, c'est le Shabbat. Ce que je veux dire par là, c'est que le Shabbat n'a aucun rapport avec l'homme. C'est une création divine qui a été en fait donné cadeau aux enfants d'Israël, mais les enfants d'Israël ne peuvent pas sanctifier le Shabbat. Attention, c'est Dieu qui sanctifie le Shabbat. L'homme est incapable parce que c'est une notion qui le dépasse. Et il n'est pas dans le temps, le Shabbat. Il est hors du temps. Et sa capacité, c'est de s'habiller dans le temps. Il a poussé le vendredi à droite, il a poussé le dimanche à gauche, il s'est introduit à l'intérieur du temporel. Et ça, par essence, c'est quelque chose d'incompréhensible à l'homme. Comment le hors du temps a pénétré le temps? Et si donc j'étudie le Shabbat, il faut que je comprenne que je suis là face à une création divine qui n'est pas en réalité du degré humain de pouvoir changer quoi que ce soit. On appelle ça dans la Gemara, Shabbat, dans le Talmud, Kvi'a Vekaima. C'est-à-dire que le Shabbat est existant de par lui-même. Tu ne peux rien faire dans le Shabbat. C'est pas moi qui décide. Le Shabbat me tombe dessus depuis la création du monde. Toutes les semaines, tous les 6 jours, le 7e jour me tombe dessus. Je ne peux pas, moi, fixer quoi que ce soit. Je peux juste essayer de capter. Alors quand vous levez votre verre du vendredi soir pour faire un kiddush sur le vin, en réalité, ce n'est pas vous qui sanctifiez le Shabbat. Vous rappelez tout simplement par vos propos que c'est l'Éternel qui a sanctifié le Shabbat, et le vin rouge sur lequel vous faites le kiddush, parce que c'est bien de faire le kiddush sur du vin rouge et non pas sur du blanc, eh bien, ce rouge qui est une couleur très très forte de la vie est censé capter l'énergie qui circule dans l'univers qui s'appelle donc Shabbat, Et une fois que j'ai sanctifié ici, mais moi, pas, je ne sanctifie pas le jour. Le jour est sanctifié par Dieu, eh bien, cette force-là, ce liquide-là est censé capter cette énergie et donc je goûte. Et quand je goûte de cette énergie, je la partage avec ceux qui sont là autour de moi et chacun de nous en réalité a consommé, pas du vin, il a consommé du Shabbat en forme de vin, avec un vêtement de vin. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que tout ce qu'on fait dans ce monde, ce ne sont que des vêtements. Là par exemple, je suis en train de vous parler. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné un vêtement à ma pensée. Donc mes paroles ne sont qu'un vêtement. Tout ce qu'on fait, ce sont des vêtements à des forces qui nous dépassent. Et donc, le Shabbat, je dois le capter d'une manière ou d'une autre. Donc il descend sur ma table. La table représente en fait un écran sur lequel va se projeter le film de l'infini. Et si je vis mon Shabbat au niveau du véritable Shabbat, mais je suis censé sortir après le Shabbat beaucoup plus fort. Je suis avec un autre degré. Et d'ailleurs, les kabbalistes font une prière spéciale à la sortie du Shabbat en disant que toute l'énergie qu'il y avait Shabbat, j'ai envie d'en prendre et de mettre dans les poches, de mettre un petit peu partout pour avoir cette force durant la semaine. D'accord? Alors, dans le judaïsme, il y a un secret. Baruch ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Shehakol Nihya Bidvaro. Il y a un grand secret dans le judaïsme qui nous a été donné par notre maître, notre père, Abraham Avinu. Abraham Avinu a écrit un livre qui est très secret. Ça s'appelle le Sefer HaYetzira, Sefer Yetzira, le livre du façonnage. Et dans ce livre, notre père Abraham, qui est le premier de nos trois pères, ça aussi c'est une question en soi, quand j'étudie le peuple d'Israël, je suis face à un peuple qui n'est pas très très facile à avaler. Parce qu'il a trois pères et quatre mères. Alors imaginez-vous, déjà avec un père et une mère, on a du mal à comprendre son identité, mais nous on a trois pères et quatre mères. Et parmi les quatre mères, il y a encore des servantes qui étaient aussi des mères de certaines tribus. Ça veut dire que c'est une folie. On est dans une famille incroyable. C'est-à-dire les complexes d'Oedipe, ça peut nous tuer. On ne sait pas exactement où nous sommes. À tel point qu'il y a encore beaucoup de juifs qui sont en dehors de leur terre et qui habitent ailleurs, ce qui est entre guillemets pas normal dans la normalité de notre peuple. Parce que si on comprenait le sens profond du judaïsme, un juif n'a rien à faire en dehors de sa terre, rien. C'est un exil, c'est une maladie, c'est une déviation de l'essence et il faut revenir. Et si on oublie cela, eh bien on oublie l'essentiel même du judaïsme. Alors je reviens. Dans ce livre-là, de Abraham Avinu, il est dit que toute notion, tout sujet que je développe dans le judaïsme, je dois le développer en trois niveaux, toujours. C'est très important si un jour vous devez donner une conférence sur n'importe quel sujet, je répète, n'importe lequel, toujours trois niveaux. Lesquels? Eh bien, les niveaux de la vie. C'est-à-dire moi, en tant qu'être, le temps et l'espace. En hébreu, ça s'appelle Olam, c'est le lieu, Shana, c'est le temps, et Nefesh, c'est l'identité humaine, ou les identités, ça peut être animal aussi, végétal. Quand je comprends ce secret, je comprends que le judaïsme est un triangle. C'est-à-dire que tout ce que je vais développer dans le judaïsme sera triangulaire. Vous étudiez la Torah. La Torah elle-même est divisée en trois parties. Il y a la première partie qui s'appelle Torah, après il y a les prophètes, Nevi'im, après il y a les Ketuvim, les écrits. Donc on appelle ça le Tanakh. Incroyable. La journée dans le peuple d'Israël est divisée en trois parties. Shacharit, le matin, Mincha, l'après-midi, Arvit, le soir. L'être humain, dans le judaïsme, et c'est l'être humain, il est tout le temps divisé en trois parties. Il y a ce qu'on appelle un premier Perek, un deuxième Perek, et un troisième Perek. Vous voyez que l'homme est fabriqué lui aussi de trois parties. Vous prenez chaque petit détail, lui aussi il en a trois. Le pouce est un secret. Il n'en a que deux. Et c'est pour ça qu'on le cache à la sortie du Shabbat, parce qu'on ne comprend pas encore ce que ça veut dire 2 degrés. Nous, nous sommes dans un monde triangulaire. Et à la fin des temps, on va dévoiler le pouce. Ce pouce représente en fait la plus grande des lumières, qu'on appelle la couronne, le Keter. Mais pour l'instant, on revient. Donc tout est en trois. Qui a donné la Torah ? Le troisième fils. C'est-à-dire la famille comportait trois enfants. Aaron, Myriam et Moshe. Et c'est le troisième qui donne la Torah. Incroyable. Au niveau du temps, quel mois la Torah fut donnée ? Le troisième mois, Sivan. Ça commence à faire beaucoup de trois. Le peuple d'Israël lui-même, il est fabriqué de combien de parties ? Trois. Kohanim, les Kohen, les prêtres, Lévi et Israël. Vous comprenez que c'est quelque chose qui est récurrent, qui commence à revenir. Et la Gemara a vu ce sujet, ce secret, dans le traité de Shabbat, justement, à la page 85, et elle nous dit que le peuple d'Israël s'appelle le peuple triangulaire. Ram Telitaï. Et tout ce que nous devons faire dans ce monde, c'est développer tous les sujets dans ce triangle. Encore une fois, le temps, l'espace et l'homme. Quand je vous ai dit par exemple que le judaïsme pour un homme d'Israël ne peut pas se vivre en dehors de sa terre, ben, ça veut dire que tout simplement, si un juif vit son judaïsme en dehors de sa terre, il y a un des trois éléments qui est en dehors du système. C'est-à-dire qu'il est boiteux de l'espace, il n'est pas dans son espace. Il va vivre au niveau du temps, il va faire les fêtes, même s'il habite à Paris. Il va vivre au niveau de l'être, parce qu'il va essayer de se développer en tant que juif, manger cachère, étudier, mais l'espace, il n'y a pas. Ce n'est pas son espace à lui, c'est un autre espace. Donc il y a un problème. Eh bien, c'est la même chose pour tous les sujets. Et là, on va parler du Shabbat. Alors écoutez, en hébreu, vous savez que les lettres sont très très fortes parce qu'elles sont créatrices. Eh bien, chacun de nous, chacun de ces trois sujets, c'est comme un vav. La lettre vav, c'est la lettre du lien en hébreu. Quand je veux dire toi et moi, je dis ani ve ata. Donc j'utilise la lettre vav. Donc ça, c'est le temps. Un autre vav, c'est l'espace. Et un troisième vase, c'est l'être. Encore une fois, les trois degrés. Ça, c'est une lettre en hébreu qui s'appelle le Shin. Et moi, je dois être en réalité le résultat de ces trois niveaux. Or, le résultat peut se dire résultat ou bien le fils de, ou la fille de. Eh bien, je suis la fille, bat, de ce Shin. Et donc, je viens d'écrire le mot Shabbat. Donc Shabbat, en fait, c'est la fille du triangle. Et c'est pour ça que Shabbat comporte trois repas. Premier repas, Seouda Rishona, Seouda Shnia et Seouda Shlishi. C'est extraordinaire, c'est un grand secret. Et donc si je suis la fille bat de ce Shin, de cet équilibre, vous savez que l'équilibre le plus parfait dans ce monde, c'est le triangle. Quelque chose qui est porté sur trois pieds est beaucoup plus solide que sur quatre pieds. Ce n'est pas par hasard que nous avons trois grandes fêtes dans l'hébreu. Et on les appelle les trois pieds. Shlosha, Regalim, Raglaim. C'est comme si on avait trois jambes. Donc Dieu, l'infini béni soit-il, quand il descend dans ce monde, il descend sur trois pieds. Il a un trépied. C'est un spoutnik. Il se pose sur un trépied. Et si je sais, moi, le secret de ce trépied, de ce triangle, je peux tout commencer à comprendre. Et ce triangle-là est en réalité le triangle qui me descend de l'infini. Vous voyez que l'infini, béni soit-il, c'est la pointe du haut, il descend vers moi. Et moi, qui suis dans ce monde, je suis un triangle inversé. Donc en réalité, il s'agit là de deux triangles. Un triangle qui me vient de l'absolu vers moi, et un autre triangle que moi, je m'ouvre vers l'absolu. Et c'est pas ni plus ni moins
que l'homme et la femme, parce que la femme est fabriquée un petit peu de cette manière-là. Elle est large en bas et étroite en haut, alors que l'homme est fabriqué de cette manière-là. Il est large en haut et étroit en bas.
Et encore une fois, je reviens à l'union entre l'homme et la femme. Vous êtes avec moi ? Ça va ? C'est pas trop... Hein ? Il y a beaucoup de choses. C'est énorme. C'est énorme. Mais si vous avez des questions, posez-les. Alors, le 3 Vav, parce que la lettre Vav, c'est la lettre qui fait le lien entre les degrés. Tous les degrés, peu importe les degrés. Par exemple, là, nous sommes ensemble. Qu'est-ce qui nous relie ensemble ? Eh bien, c'est une lettre secrète, le Vav. Je vais vous dire mieux. Quand vous ouvrez un livre, et quand vous ouvrez le livre de la Torah, le parchemin, vous voyez qu'il y a des blancs entre les lettres. C'est obligatoire, sinon c'est une talade. Eh bien, les blancs, la distance entre une lettre et une autre, c'est un Vav. C'est un Vav, mais qui n'est pas écrit, vous comprenez ? Un Vav blanc. Autrement dit, entre chaque lettre, il est obligé d'y avoir un Vav. C'est une lettre secrète. C'est extraordinaire. Et s'il y a trop d'espace, c'est déjà deux mots, donc le livre n'est pas bon. Par exemple, si j'écris, je ne sais pas, Bereshit, au lieu d'écrire Bereshit comme ça dans la Torah, j'écris comme ça, Bereshit, c'est déjà autre chose. Parce que j'ai donné plus de distance qu'un seul Vav. Et ça veut dire autre chose. D'accord ? Alors, il faut bien comprendre que c'est une lettre secrète, en fait c'est pour la réponse de Myriam, c'est qu'en réalité, la lettre Vav est la lettre du secret. Et cette lettre, en réalité, pourquoi elle est de cette valeur numérique ? D'abord parce qu'elle est rectiligne, rappelez-vous du rectiligne que j'ai dit au début, c'est-à-dire que c'est un trait d'union entre le haut et le bas, en l'occurrence ici, entre, si j'écris maintenant comme la Torah l'écrit, j'ai un petit peu comme ça, j'ai un yud qui se prolonge. Comprenez ? Voilà le vav. Qu'est-ce que j'ai fait ? En fait, j'ai pris un yud et dans la pointe du yud, il y a un monde secret, c'est déjà l'absolu. Et ici en bas, c'est le monde de la matière. Donc en fait, je fais l'union entre l'esprit et la matière par la lettre vav. Quand vous allez manger de la viande, il va falloir attendre 6 heures pour manger du lait, et c'est la lettre Vav, c'est le 6. C'est-à-dire ce 6, c'est un secret. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey, Vav. Donc c'est aussi le chiffre 6. Et si je connais ce chiffre 6, je devrais ne jamais me tromper. Vous avez entendu parler de la faute du Vaudor ? Oui ? Eh bien la faute du Vaudor, elle a été faite parce qu'on a raté le 6. Et c'est écrit dans la Torah, mais les gens ne comprennent pas. Vayar ha'am ki boshesh Moshe, la redet minaha. Le peuple n'a pas compris le 6. Ils ont raté le 6. Si tu rates le 6, c'est raté la droite. Parce que c'est la droite. Donc tu es resté dans un... Salam Podara. Donc, si tu as raté la droite, il ne te reste plus que le cercle. Comment on dit un cercle, un rond en hébreu ? Igoul. Donc ça a donné Chetaegel. C'est-à-dire c'est la faute du tourner en rond. C'est des gens qui n'ont pas compris le sens de la vie. Et cette faute du Vaudor, on peut la recommencer aujourd'hui. C'est-à-dire si tu tournes en rond dans ta vie, et qui n'a pas de direction. Tu es en train de fabriquer, en fait, ce qu'on appelle la faute du mot d'or. Mais toi, tu crois qu'on a fabriqué un pivot. Ce n'est pas des débiles. Vous comprenez le secret ? Donc, tout ce que je suis en train de vous dire, eh bien, c'est aussi au niveau du Shabbat. Le Shabbat lui-même doit être développé, ce sujet, sur 3 degrés. Il y a le Shabbat de l'être, il y a le Shabbat du temps et il y a le Shabbat de l'espace. Encore une fois, je ne bouge pas de ces 3 degrés sur lesquels tout sujet, n'importe lequel, doit être développé dans le judaïsme. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Pour que je n'ai pas l'impression que je parle seul, que vous compreniez un tout petit peu, j'espère que je suis assez clair, ce sont des notions, je vous le concède, très profondes, mais ce sont des notions qui sont de base. Et malheureusement, je dis malheureusement, pas beaucoup de gens ne savent ça. Mais c'est la matrice même du judaïsme. Alors, si vous avez des questions, allez-y. Rabbi Yoshua, même si tu as des questions pour les autres, tu sais un petit peu leur niveau.
Pour revenir sur cette notion de fils, elle apparaît dernièrement dans l'exposé. Il y a déjà beaucoup de choses. Et le lien avec le mot d'or, peut-être préciser quel rapport entre le fils et la faute du mot d'or.
D'accord.
Ils font Bochèche, première fois, avec Bochèche, c'est ce qu'il dit.
Il y a une notion de honte, il y a une notion d'attente et de retard.
Voilà. Donc moi, on imagine, on est à la fin des 40 jours, Moshe est monté sur le et sur le 50 jours. On est à la fin des 40 jours et il n'est pas encore là. Alors il voit, on en est d'ailleurs, hein, tout Moshe. Le peuple l'a vu, ben, il aurait dû en aller.
On lui vaut chèche. C'est-à-dire c'est comme si lui était le porteur du 6. Or le 6 n'est pas là. Et si le 6 n'est pas là, il n'y a pas de droite, on est dans un monde circulaire, donc on revient à un monde qui n'a pas de sens. C'est un jeu de mots en hébreu.
Le mot chèche, je veux dire, il tarde
à descendre, il n'est pas là.
Mais on le commence par bochèche.
D'accord ? Donc, vous comprenez que la Torah peut être lue à plusieurs degrés, plusieurs niveaux. Et c'est très important de savoir l'hébreu. C'est pour ça que l'étude, pour moi, à mon sens, l'étude de l'hébreu, c'est la plus grande étude de la Torah. Le ? Exactement. D'ailleurs, il y a des vêtements qui s'appellent Shesh. Bigdei Shesh. Ce sont par exemple des armes. Les armes, les militaires, dans la Torah, dans le sens de la Torah, s'appellent Bigdei Shesh. Comme une armure. Et c'est en réalité, qu'est-ce que c'est que cette armure? C'est pas une armure pour aller se battre. C'est en fait, quand est-ce que je suis fort dans ma vie? Quand je sais faire les liens. C'est ça que ça veut dire, quand j'ai la lettre Vav dans ma vie. Quand je suis un Vav coupé, j'ai perdu mon lien. Et si je perds mon lien, je ne sais plus qui je suis dans mon monde, et encore moins je peux diffuser quoi que ce soit aux autres, parce qu'ils comprennent que je ne suis pas dans la stabilité. Et c'est ça la force, toute la force, c'est ça. Et en réalité, les trois pères sur lesquels nous reposons, le peuple d'Israël, ils sont là. Abraham, à gauche, à droite, Yitzhak à gauche, et Yaakov au milieu. Ça, c'est les trois pères.
Okay. J'avais une curiosité de ma part parce que
j'ai parlé
d'un
vase
coupé.
Dans la Torah, il y a un vase coupé. Il y a un vase
coupé. Dans Dachon.
Dans Shalom de Pinchas, dans Parashat Pinchas, Hineni noten loed beriti Shalom. C'est-à-dire qu'il y a en réalité une connotation que le Rav Yoshua rappelle ici, de quoi? De ce qui a été endommagé à ce moment-là. Qu'est-ce qui a été endommagé dans la paracha de la Torah qui s'appelle Pinchas? Eh bien, ce vase-là. C'est pour ça que Pinchas est allé pour réparer ce vase. Et il a pris en fait une lance qui est de la forme du vase pour réparer, pour justement annuler la mort de ce monde. Je vais plus loin maintenant. Le vase, c'est le secret de la vie. D'ailleurs, vous savez qu'il y a une valeur numérique. Donc, 3 fois 6, 18, c'est la vie, en hébreu, chai. Et si tu n'as pas de vav dans ta vie, tu es mort. Les gens qui n'ont pas de vav sont considérés comme morts, même s'ils sont vivants, parce qu'ils n'ont pas de lien. Le lien, c'est la vie. Le lien entre les étages, les différents étages. Vos cellules dans votre corps, chaque cellule de votre corps sait qu'elle fait partie d'un tout. On est d'accord ? Elle fait partie du lien. Chaque cellule qui a quitté le corps est morte, on est d'accord. Mais la personne continue de vivre. Mais si la cellule Chas Veshalom, que Dieu préserve, est en nous encore, et qu'elle sort du lot tout en étant dans le corps, c'est un cancer. Parce qu'elle a perdu le lien avec le tout. Et votre conscience doit se développer au fur et à mesure que vous vous approchez de ce peuple, de la conscience du tout, de l'unité. Et quand je perds l'unité, je perds le sens de la vie. C'est très, très important. C'est pour ça que dans la Amida, dans la prière que vous avez fait debout, la prière la plus importante, c'est « Béni sois-tu l'Éternel qui donne à l'homme la conscience de cette unité ». Seulement, vous, peut-être, vous ne savez pas le traduire, mais c'est « Atachone le Adam Da'at ». Et le Da'at, c'est ce vase. Donne-nous la possibilité de comprendre quel est le lien entre nous, quel est le lien entre moi et moi, quel est le lien entre moi et ma femme, quel est le lien entre moi et mes enfants, quel est le lien entre moi et ma terre, quel est le lien entre moi et ma Torah, quel est le lien entre moi et cette journée, quel est le... Comprenez ? Tous, c'est des liens. Pourquoi nous sommes là aujourd'hui, nous ? Il y aurait pu avoir quelqu'un de plus ou quelqu'un de moins ? Non. Comme s'il y a eu une décision quelque part, que juste ces personnes-là soient réunies aujourd'hui et qui rentrent maintenant pour toucher la lumière. Et si je ne comprends pas les liens, si je ne sais pas faire les liens, je vais avoir l'impression que la vie n'est que une succession de hasards, de points disparates qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Comprenez que ça ne marche pas comme ça. Vous avez fait une évolution pour arriver aujourd'hui à être assis ici. Vous faites le lien entre tout ce que vous étiez il y a 10 ans et tout ce que vous êtes aujourd'hui. Sinon, c'est malheureux. Eh bien, c'est la même chose dans tous les domaines. Alors, avant que j'avance, parce que ça va de plus en plus profondément, posez des questions. Comme dit mon rave, sinon j'ai l'impression que vous êtes des poissons.
D'abord, la première, c'est vous laisser entendre que finalement une conversion ne peut avoir lieu qu'en Israël, ou aller conduire en Eretz Israël.
Tout à fait.
Et pas la position, voilà, de
tout à fait. Tout à fait.
Et puis la deuxième...
Je vais vous répondre un petit peu plus en profondeur. Mais...
La deuxième question, c'est, vous dites, tout le monde est en rythme ternaire, c'est le rythme aussi en Occident par excellence, et à quel moment la Avodah Zarah par excellence, hein, je veux dire, dit, bah, finalement, ça va encore plus haut que ce que vous dites, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement au niveau de l'humain, mais la Trinité représente ce terme.
Tout à fait. Alors, vous avez posé deux questions essentielles, je vais essayer de répondre à ces deux questions l'une après l'autre. Alors, premier degré, vous avez dit que le peuple d'Israël, la conversion en réalité, ne peut se faire que par rapport à Israël. Je vais vous répondre. Si vous vous convertissez à la religion juive, ce n'est pas une vraie conversion. Vous vous convertissez à la nation juive. C'est autre chose. Or, il n'y a pas de notion de nation s'il n'y a pas de notion de terre. Une religion peut se développer à Strasbourg. Parce que pour être religieux, je n'ai pas besoin d'un lieu. Alors que pour être dans une nation, j'ai besoin d'une terre. Donc effectivement, le véritable sens de la conversion, d'où est-ce que nous apprenons la conversion, l'essentiel, la matrice de la conversion, c'est Ruth. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Amer, ami. C'est-à-dire, d'abord ton peuple est le mien, et après religion. Elohai, Elohai. Après on va devenir religieux, mais d'abord je rentre dans ton peuple. Or, peuple égale terre. En Eretz, en am velo Eretz. En dehors de la terre d'Israël, tu es un juif religieux. Mais tu n'es pas en train de vivre au rythme de ta nation. Aucun rapport. C'est pour ça que je vous dis qu'on ne peut pas détacher cette trilogie. Deuxième degré, en refaisant référence à la chrétienté, je vous rappelle que la chrétienté a pris sa source dans le judaïsme. Seulement, au lieu de rester au niveau de l'essence des choses, il y a une petite déviation, je vais dire, je reste correct, hein, au niveau de ce degré-là. Mais en réalité, c'est ça. C'est-à-dire que nous sommes aussi tous les enfants d'Israël, il y a marqué les enfants de Dieu. Banim, Atem, Lachem, Elohechem. Donc il y a cette notion de père, Avinu, il y a cette notion de fils, qui est le monde, le peuple d'Israël dans ce monde, hein, et il y a la notion de ce que les chrétiens appellent le Saint-Esprit, mais c'est, nous, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Saint béni soit-il. C'est autre chose. C'est son Esprit à lui qui nous traverse. C'est comme si vous disiez, c'est le vase. C'est ce qu'on appelle la Shekhinah. La Shekhinah, c'est le vase qui fait le lien entre, et je vous ai dit tout à l'heure, le Yud qui est en haut, qui est l'essence, et le résultat d'en bas. D'accord ? C'est la même chose. Il y a fait la prophétie. Toute la Torah est une prophétie. Et la prophétie par excellence, est-ce qu'on peut être prophète en dehors de la terre d'Israël ? Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de prophète en dehors de la terre. Ça n'existe pas. Parce que justement, le lien de la prophétie, c'est pour la nation d'Israël. Or, si je prophétise pour la nation d'Israël, c'est parce que j'étais déjà en Israël, et même je suis exilé, Al-Nehar Kvar, alors je peux prophétiser, mais en dehors d'Eret Israël, je ne peux pas prophétiser. Je vais vous raconter l'histoire d'un prophète qui ne voulait plus être prophète, qui en avait marre d'être prophète. La meilleure chose pour ne plus recevoir de prophétie, c'est donc de quitter la terre. Jonas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté la terre d'Israël pour arrêter de recevoir le flux divin. Et je vais vous dévoiler quelque chose de très fort. Comment est-ce qu'on va savoir les frontières, les vraies frontières de la terre d'Israël au moment où le Messie va arriver? Eh bien, le Messie va avoir un bâton, et il va aller, et là où il reçoit la prophétie, c'est Israël. Il fait un pas en dehors, il ne reçoit plus rien, il revient ici, il tire un trait, il sait que c'est là la frontière. C'est comme ça que c'est écrit. Ça veut dire qu'en réalité, il n'y a que sur cette terre que je peux être prophète. Comprenez? Et qu'est-ce que c'est que la prophétie? Mais c'est tout simplement amener aux jambes ce qu'il y a dans l'esprit. C'est ça la prophétie. Donc la prophétie, on va dire, les prophètes tirent leur puissance dans les hanches. Si je devais traduire ça dans un corps humain, un prophète, c'est celui qui a des hanches qui maintiennent tout le corps sur pied, sur terre. Donc ils traduisent les valeurs de l'infini et qui le cristallisent ces valeurs pour en faire une réalité terrestre. C'est ça la prophétie. Et en hébreu, ça veut dire faire venir, nazi. Faisons venir. Qu'est-ce que tu fais venir? Mais tu fais venir les valeurs d'en haut et tu les vis en bas, dans ta vie. C'est ça le Navi. Et ça vient du mot Niv, Sfataim, c'est-à-dire les lèvres qui bougent. Il y a beaucoup, beaucoup de notions. C'est pour ça que quand Rabbi Yoshua m'a dit de parler du Shabbat, j'ai dit, par où je vais commencer? J'ai un séminaire que vous compreniez bien, qui n'a pas commencé encore, donc grâce à votre cours, j'ai préparé déjà mon approche pour les cours de l'année prochaine. Je donne des séminaires dans tout Israël. Et le séminaire de l'année prochaine, c'est le Shabbat. Okay? Donc, c'est très très important de connaître cette notion, parce qu'en réalité, elle fait partie de la matrice de ce que nous sommes. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait un Shabbat au niveau du temps, entre guillemets. C'est celui dont on vient de parler maintenant. Mais le Shabbat de l'être, c'est qui ? Je vous ai dit qu'il y a trois niveaux, l'être, le temps et l'espace. L'espace, vous avez compris, quel est le Shabbat de l'espace? L'affaire d'Israël. C'est le Shabbat de l'espace. C'est-à-dire qu'en dehors du Shabbat, tu ne peux pas vivre le Shabbat. Donc, un juif qui fait Shabbat à Nice, eh bien, il fait le Shabbat de l'être, peut-être, s'il est bien bien relié, le Shabbat du temps, mais il ne peut pas faire le Shabbat de l'espace. Donc, il profane le Shabbat de l'espace en habitant à Cannes. Et le prophète Ézéchiel dit que ça s'appelle de l'arbre d'Azor. Juste de marcher à Cannes. avec une barbe, un chapeau, et ce que tu veux, de marcher à Paris, à Strasbourg, à Cannes, à Nice, à Lausanne, à je ne sais pas où, ça s'appelle profaner le nom de Dieu. Pourquoi ? Parce que les nations du monde disent, ça c'est le peuple de Dieu, et ils sont sortis de sa terre. Donc en réalité, il rend l'Éternel menteur. Parce que l'Éternel a dit, je vous ramènerai sur votre terre. Or, ils vivent à l'extérieur, donc il y a ici quelque chose, un décalage qui n'est pas bon. Je suis très très précis dans ce que je vous dis, et vous pouvez prendre chaque mot, c'est enregistré dans des références. Hein, Ézéchiel 36. Chilaltem et shmi bagoim asher batem sham, ki omru lachem am ashem ele umearso yatsao. Pas parce qu'ils n'ont pas mangé kasher, ils étaient très religieux, mais ils sont en dehors de leur terre. Donc ils ne jouent pas leur rôle national. Donc ils ont l'impression que Dieu a créé des religieux. Non. Dieu a créé une nation pour qu'elle dévoile son nom. Or, dévoiler son nom, c'est être prophétesse. Donc elle ne peut pas être prophétesse en dehors. Donc ils ne jouent pas leur rôle extérieur. Il n'y a qu'ici que tu joues ton rôle.
Qu'est-ce qu'il peut y avoir des prophètes d'autres nations ?
Oui. Il y a des prophètes d'autres nations. Et nous avons mentionné Bilham. Bilham est un prophète des nations, qui est arrivé au degré de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire la correspondance. Le pendant de Moshe Rabbeinu, c'était Bilham. C'est pour ça que nous disons, précision encore une fois, Lokam Beisrael, que Moshe Od. Dans le peuple d'Israël, il n'y a pas eu un autre prophète comme Moshe. Mais à l'extérieur, oui. Et qui c'est ? Bilham. Comme ça dit la Gemara. D'accord ? Alors, quelle est l'antithèse d'Israël ? Si Israël est un peuple, l'antithèse d'Israël, c'est le non-peuple. Comment on dit le non-peuple ? Bilham. Bilham. Vous comprenez ? C'est énorme la Torah, c'est énorme. Moi, je pleure en étudiant. Je vous raconte un secret, je pleure en étudiant. Tellement je suis ému de voir cette immensité. Et je vais dire devant mon ami Joshua, c'est un ami d'enfance en fait, on a grandi ensemble à Nice, qu'un jour, c'est lui qui m'a transformé ma vie. Il ne se rappelle peut-être même pas. Il est venu, lui il était en Israël, moi j'étais encore à Nice, et il m'a apporté un livre du Rav Kook qui s'appelle Chazon Ageoula, un livre bleu, bleu jean. C'est la première fois que j'ouvrais un livre du Rav Kook. Ça m'a fait une révolution intérieure. Et d'ailleurs, je lui ai demandé la permission il y a quelques années, tu as même ça où tu l'as oublié, de le garder, parce qu'il y a encore ton nom dessus. Et je t'ai demandé, est-ce que je peux le garder ? Tu m'as dit, oui, garde-le. Ça m'a transformé ma vie. Et c'est une autre dimension de la Torah. Comprenez que ce n'est pas le niveau fait, ne pas fait, tu as le droit, tu n'as pas le droit, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait un péché. Toutes ces notions-là, c'est débile pour moi. C'est loin, 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 loin de ce que l'Éternel, béni soit-il, nous donne. Et je vais vous dire quelque chose de très, très, très dur. Le jour où le judaïsme est devenu aux yeux et aux oreilles et à l'intention des hommes une religion, il est mort, le judaïsme. La religion a tué le judaïsme. Et moi, je me dois de ramener le judaïsme à son essence, c'est-à-dire à être une nation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'Éternel a choisi cette nation pour donner ses valeurs. Et donc, je m'efforce d'étudier une Torah qui essaye de scruter à l'intérieur même des choses et ne pas rester au premier degré. Parce que rester au premier degré, j'ai l'impression presque que je fais honte à l'infini. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le Zohar. J'essaie
de me mettre à la place de personnes qui sont juives, ou apostoliques qui sont juives et qui veulent rentrer dans le peuple. Ils n'ont pas, et les uns et les autres, comme beaucoup de juifs, qui sont coupés de l'histoire, de ce vase-là.
Oui.
Et puis, moi, je veux dire, on a un verre qui s'appelle Abraham. Et Abraham, c'est le père de toutes les nations. Abraham Lodbrim, c'est ça le justement sa caractéristique qui a changé dans sa vie, parce qu'avant il était Abraham, il est devenu Abraham. Finalement, c'est quoi j'ai besoin, malgré Abraham, bien de faire tout ce travail pour me reconnecter avec l'histoire d'une petite partie de l'humanité finalement. C'est pourquoi Abraham parle de l'humanité tout entière.
Réponse, notre père, ce n'est pas Abraham seulement. C'est-à-dire que c'était un entonnoir qui, de Abraham, est sorti deux enfants. Donc on a commencé à sélectionner Israël, donc Yitzhak et Ishmaël. Et après, il y a encore un entonnoir qui devient Yaakov. Et dans cet entonnoir qui devient Yaakov, il doit se transformer en Israël à un moment donné de sa vie. C'est-à-dire que effectivement, Abraham, c'est une matrice, mais c'est l'une des matrices. Mais il y a un entonnoir qui va sortir de Abraham le jus intérieur. C'est comme si je prenais en fait ce stylo, et je veux que la partie rouge qui est à l'intérieur. Donc ce stylo, je commence à le démonter. J'ai une partie. Après, je prends cette partie-là, celle-là, elle ne m'intéresse plus. Je vois que le truc est là, donc je dois enlever, je dois faire un tri, jusqu'à ce que je trouve la quintessence des choses. Et c'est ça le peuple d'Israël. C'est pour ça qu'on n'y arrive pas d'un coup. C'est pour ça qu'il y a un cheminement. C'est pour ça qu'il y a un combat. Et même quand je m'appelle déjà Jacob, qui est notre vrai papa, il faut que Jacob, pendant sa vie, devienne Israël. Par un combat. Autrement dit, même si je suis né d'une maman juive, et que je suis juif par nature, ça ne suffit pas. Je dois me battre dans ma vie pour vivre selon cette essence. Et à plus forte raison, quand vous venez d'une autre nation, vous devez quitter en fait la terre. C'est terrible. Comment s'appellent les nations? Les nations du monde. Umot ha'olam. C'est-à-dire qu'elles font partie de ce monde. Israël ne s'appelle pas Umat Ha'olam, comme si Israël n'avait pas de lien avec ce monde. Israël doit se battre pour avoir une place dans ce monde. Regardez, on est toute la journée en guerre pour avoir une petite cravate de quelques 40 kilomètres. Donc c'est difficile. Alors comment on dit se convertir en hébreu? Devenir étranger, comme Israël, les Juifs Gaïers. Ça veut dire, jusqu'à maintenant, vous étiez habitants du monde. Quand vous allez intégrer le peuple d'Israël, vous allez devenir des martiens. Vous comprenez? C'est, dans un langage hébraïque, ça veut dire que c'est à l'envers.
Mais pourquoi, à ce moment-là, on devient Ben Abraham, Abimé,
Tout à fait. Tout à fait.
Et j'ai toujours pensé que c'est parce qu'on ne savait pas lesquels matriarches on devait mettre.
Non. C'est parce que Abraham, c'est juste la source. Alors quand on fait une circoncision, une brit mila, on dit les achriso bibrito shel Abraham avinu. Pourquoi? Parce que c'est Abraham qui a reçu le premier, la circoncision. Mais ça ne veut pas dire que lui, Abraham, n'était pas juif. Il n'est pas juif, Abraham. Vous comprenez? C'est un hébreu. Mais ce n'est pas dans le sens judaïsme. Noé n'était pas Israël juif. Le premier homme n'était pas juif, ça veut rien dire ça. Donc il y a une évolution pour trouver cette nation qui a été pensée par Dieu. Comment est-ce qu'elle va apparaître sur terre?
C'est ça que Abraham, le premier ordre qu'il reçoit, c'est justement
de partir sur la terre. Tout à fait. Pourquoi? Parce que ça veut dire que sauf Maasé, Bemarchava Trila. La première racine du judaïsme, elle a un seul ordre. C'est-à-dire, Dieu ne trouve rien à dire au premier homme de l'histoire que va en terre d'Israël. Il aurait pu lui dire, mon cher Abraham, qui est très religieux, allume des chanoukiot, distribue des beignets, mets les tfilines aux gens à la place Masséna. Non. Vous comprenez? Ça ne veut rien dire. Et pourquoi on est sorti d'Égypte? On aurait pu monter une communauté à Alexandrie, Alexandra. On aurait pu ouvrir des boucheries cachères, des centres d'études, on avait des grands rabbins, Moïse, Aaron, qui sait qui mieux que nous. Dieu nous dit non, vous ne comprenez rien, je ne vous ai pas demandé de faire une religion, barrez-vous. Même le mont Sinaï, c'est la plus grande yeshiva du monde. Hein? On est sur le mont Sinaï, les vêtements grandissent avec nous, on a un miracle perpétuel, on n'a même pas besoin d'aller travailler, on a à manger constamment, il y a la manne qui nous tombe du ciel, de l'eau qui nous pousse, de je ne sais où, d'un puits, de Myriam. Hein? On a des cadeaux divins, et Dieu nous dit, « Rav lachem shevet baharazé, j'en ai marre, vous n'avez rien compris, barrez-vous. » Tournez votre tête et prenez vos valises et montez sur la terre. C'est bizarre quand même.
C'est
exactement. Les gens qui ne comprennent pas le sens de cette terre, moi je me bats. Vous pouvez écouter mes cours sur internet. J'ai un site. Il y a des milliers de cours. Mais tous les cours, vous allez m'entendre taper. Hein, gentiment, avec amour, mais sur les gens qui ne comprennent pas ce degré-là, et qui commencent à développer, qui continuent de développer un judaïsme en dehors d'Israël, c'est pas notre terre. On t'a pas demandé d'être religieux, on t'a demandé d'être une nation. « Ve'eresra les goy gadol, je ferai de toi une grande nation sur ta terre. » Il n'y a pas marqué « Ve'eresra les dati gadol, je ferai de toi un grand religieux. » Je m'en fiche, moi, d'un juif qui fait Shabbat et qui mange cachère à je ne sais pas où, à Milan. Il est bien gentil, mais c'est pas son rôle. Son rôle, c'est d'être une nation qui dévoile. Sinon, on retarde le messianisme. C'est tout simplement mettre des bâtons dans les roues de Dieu. Ne pas être ici. Ça me rend fou. Et tout ça parce qu'on a rendu le judaïsme religion. Et une religion n'a pas besoin de terre. C'est tout. Comment ouvrir les yeux? Il faut d'abord nous savoir. Si j'étudie moi mon propre sujet, que je deviens spécialiste, moi je fais un doctorat sur ça. C'est mon sujet. D'ailleurs, un jour, j'ai donné un cours avec un rabbin de France, ici, très très connu, et il m'a dit, ouais, mais c'est entre guillemets, c'est pas du jeu. Toi, tu étudies ce sujet, et moi non. J'ai dit, mais parce que tu n'as rien compris. C'est le sujet à étudier. On a les mêmes références, que je sache. Pourquoi tu négliges ce que Dieu lui-même dit? Tu t'es inventé une religion à toi. Arrête de dévoyer, de sortir de la voie. Alors étudie, qu'est-ce que tu me dis? J'ai pas étudié ça. C'est pas du jeu, si l'on est en train de faire un combat. Parce que je m'étais mal à l'aise. Et quand j'allais à Nice, et que le rabbin, un des rabbins de Nice, me faisait une émission de radio, à chaque fois que je commençais à dire des trucs, il m'a tremblé la main comme ça, il faisait style à la musique. Mais de la musique. Arrêtez l'émission. Il me dit, tu me gênes. Je dis, alors pourquoi tu m'as amené? Parce que je vais casser ta communauté. Moi, je suis là pour dire la parole divine. Je suis là, pas là pour mentir. Moi, je suis quelqu'un de très, très entier. C'est-à-dire, si tu me dis aujourd'hui que ça c'est du bidon, je jette ma kippa, j'en ai rien à faire. Je suis pas un malade, un fou, un religieux, planeur, pas du tout, je suis très terre à terre. Si c'est pas logique, s'il n'y a pas une structure, je jette tout moi. Ce qui me permet d'être entier et vrai dans mon étude. J'ai pas peur entre guillemets. Je suis pas dans cette peur là. Je veux être le plus vrai possible.
C'est pas parce que vous n'avouez pas que le grand religieux,
parce que c'est
religieux.
Mais oui, mais oui.
A dit non, voilà l'homme qui serait la vraie.
Voilà.
On ne peut pas rentrer dans cette terre. Dans cette terre, si on n'est pas déjà. Donc les gens qui sont pas de bonne vie, pas l'envie de
penser. Exactement.
C'est un esprit de faiblesse.
C'est la faiblesse.
On n'arrive jamais.
Tout à fait. Tout à fait. Même Shabbat, vous croyez que tout le monde fait Shabbat? On ne fait pas Shabbat du même degré. Je suis sûr. On ne respecte pas le Shabbat au même degré. On a tellement de choses le Shabbat. avec les nuances, si je rentrais dans toutes les nuances de Mouksé, c'est pas possible. Chacun de nous profane plus ou moins le Shabbat. Mais dans mon esprit, j'ai envie de le faire. Et donc tout, c'est comme ça. Et ça, c'est l'infaiblesse. Et pour ça que c'est les Meraglim. C'est les explorateurs modernes. Parce que qu'est-ce qu'ils ont dit, les explorateurs? C'est la même chose. Ils leur ont dit, vous n'êtes pas prêts à rentrer sur cette terre. C'est une terre trop forte pour vous. Mais en réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'est pas capable de dévoiler sa lumière sur cette terre-là. C'est ça que ça veut dire. Et Rashi, qui était français, dit sur place qu'il krasakumimenu. C'est comme si les explorateurs disaient que cette terre d'Israël est plus forte même que Dieu. Donc lui-même ne peut même pas rentrer sa main ici, on va le bouffer. Imaginez-vous que Dieu rentre sa main en terre d'Israël, on lui enlève la main. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est une peur. Il ne faut pas avoir cette peur-là. Il faut croire en notre valeur, il faut croire en notre essence, il faut croire à ce que Dieu nous a donné intrinsèquement, et tout simplement se laisser guider et vivre la chose en question. Moi, j'ai rien à inventer, j'invente pas une religion, j'invente pas des actes religieux. J'ai reçu une mission et tout simplement, j'essaye de me faire traverser comme si j'étais un canal de lumière. C'est tout. J'ai à monter nulle part, je dois pas bouger, je suis un homme sur ma terre, normal.
Le problème, c'est que la plupart des juifs aujourd'hui, ils ne sont pas juifs.
Ben, vadaï.
Yeah, je suis juif, je suis très heureux, merci Napoléon, de m'avoir permis d'aller pouvoir faire le métier que je veux, en vivant où je veux, dans n'importe quel département, je crois, pour les
français. Et de m'avoir prévu un consistoire.
Je suis juif, mais je
ne
me vois pas comme un canal, je n'ai rien à
apporter
aux autres.
Exactement. Je suis individuellement parlant, je suis juif individuellement parlant. Je fais ma synagogue, je fais mon petit truc, j'ai mon talit.
Les autres veulent ça, mais moi j'ai dit, c'est une naturalisation et je ne suis pas.
Parce qu'ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. C'est vraiment. C'est exactement ça.
Mais, il n'y a pas de problème, on en a parlé hier avec la mairie.
Je suis content, moi, qu'il y ait des gens de cette rampe. Ça n'existe pas. Les gens ne comprennent rien. J'en ai marre d'une Torah du ras des pâquerettes. La Torah, c'est intelligent, c'est énorme, c'est divin. Si tu n'as pas cette intelligence de la Torah, tu la rends ridicule. Dans le Cantique des Cantiques, les nations du monde demandent à Israël, qu'est-ce qu'il a votre Dieu plus que le nôtre? Pareil, tu as ta religion, moi j'ai non. Madoder Midod, qu'est-ce qu'il a de plus? Didodi. Alors toi tu dois lui répondre. Sach, ve Adom, Dagul Mirevava, Rosho Ketempaz. C'est tous des secrets. Tous des secrets. Qu'est-ce qu'il a, le Dieu d'Israël, par rapport au Dieu des nations? Ça n'a aucun rapport. Ça, c'est pas un Dieu de religion. C'est un Dieu d'une nation. Je vais te dire avec un autre degré. C'est pas les mitzvot qui me font. C'est moi qui fais des mitzvot. Dans une religion, c'est les actes qui font l'homme. Dans le judaïsme, c'est l'homme qui fait des actes pour continuer le lien. Vous voyez la différence? Un jour, je vais vous raconter pour que vous compreniez bien. J'étais à une circoncision, une Brit Mila. J'arrive à la Brit Mila et on passe le bébé d'un degré à un autre, d'une personne à une autre. Donc à un côté de moi, il y a un type qui devait faire la Brit Mila. Et on passe le bébé à je ne sais pas qui. Et le Moël, il dit, il crie, non, tu le passeras quand il sera juif. Justine, il n'est pas encore juif parce qu'on ne l'a pas coupé. Alors je me tourne, il est à côté de moi, je lui tape, je lui dis, il n'est pas juif le bébé là? Il me dit, non, tant qu'il n'a pas fait la mila. Je lui dis, mais moi je ne connais pas une mitzvah de faire une brit mila à un goy. Alors il me regarde comme ça. Il ne savait plus quoi me dire, il me dit, non mais, moi j'étudie moi. Je dis, toi qu'un âne. Je ne comprends pas, si c'est pas un juif, pourquoi tu lui fais la brit? Il m'a dit, il va devenir juif maintenant. J'ai dit, alors si je prends un chat dans la rue et je lui coupe, il devient juif. Ça, c'est l'acte qui fait le juif. Je lui dis, moi je croyais que j'étais d'abord juif, parce que je suis né d'une maman juive, même si j'ai pas fait la brit mila, même si on me l'a fait à 30 ans. Il m'a dit, arrête, tu m'embrouilles la tête, j'ai pas le temps. Comprenez la différence des choses? Voilà, c'est ça. Ça, c'est la différence entre une religion et une nation. Et quand on monte à la Torah, vous savez pourquoi on a été exilé? Pourquoi on a vécu le 9 Av avant-hier, il y a quelques jours? Il y a marqué parce que chez l'Oberhu Torah Trila. Parce qu'ils n'ont pas compris la bénédiction qu'on lit avant de lire la Torah. Quelle est cette bénédiction? Asher Bachar Banu Mikol Ami, qui nous a d'abord choisi en tant que nation, et après il nous a donné la Torah, et pas l'inverse. C'est pas la Torah qui nous a rendus libres. C'est parce que nous sommes enfants d'Israël que nous avons une Torah qui correspond à notre nature. C'est l'inverse. Et si je suis venu juste pour éclairer ces petits points aujourd'hui, je suis content. Exactement. Pas seulement converti, il est en même temps un vase qui change le temps. Converti dans ce sens-là, et il est en même temps un vase qui donne l'inverse de l'autre. Par exemple, si je dis « Ata asita kacha ve'ani lo » Toi, tu as fait comme ça, et tu mets le vase, ça veut dire « moi non ». C'est-à-dire que c'est une lettre secrète. Elle peut transformer le passé en futur, le futur en passé. Elle fait le lien entre toi et moi. Elle fait la différence entre toi et moi. C'est incroyable cette lettre. D'ailleurs, dans un gutturalement chez les Nord-Africains, on l'appelle pas Vav, on l'appelle Wow. C'est le vrai Wow. On s'arrête un petit moment. Quel tada. Le bétadère, Rabbi Yeshua.